Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h47, le comparateur des programmes avec ce matin Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, qui est la Fondation pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques.
Oui, chaque semaine, avec ce comparateur, on s'arrête sur un sujet. Bonjour Agnès Verdier-Molinier.
Bonjour.
Le sujet ce matin, de la fraude sociale, parce que c'est dans tous les programmes pour la présidentielle, ça revient d'ailleurs en permanence, hein.
Oui, c'est devenu un vrai marronnier, cette histoire de la fraude sociale. Il faut dire que les estimations sont énormes, hein, de l'ordre de 20 milliards d'euros par an, en comptant les prestations sociales, donc les aides, et puis les fraudes aux cotisations sociales. Alors, il était temps qu'on en parle un peu, hein, car précédemment, on parlait en France surtout de fraude fiscale, on s'en souvient, et étonnamment, on parlait quasiment jamais de fraude sociale. Et cette dernière était en quelque sorte acceptée un peu comme un élément de notre modèle social.
Oui. Est-ce que ce n'est pas en train de changer, Agnès Verdier-Molinier, franchement ?
Oui, ça change parce que on a des chiffres maintenant, on en parle, il y a eu des rapports parlementaires. Et beaucoup de candidats à la présidence de la République imaginent récupérer énormément de recettes publiques, hein, pour se financer, rien qu'en faisant la chasse à la fraude sociale. Alors, par exemple, Marine Le Pen annonce 15 milliards de recettes supplémentaires par an en luttant contre la fraude fiscale et sociale. Valérie Pécresse propose à peu près la même chose. Éric Zemmour, 5 milliards sur la fraude sociale et 10 milliards sur la fraude fiscale. Mais de l'autre côté, hein, plutôt à gauche, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ne parlent pas du tout de fraude sociale, ils parlent que de fraude fiscale. En creux, on voit bien que certains sont prêts à continuer plus ou moins à fermer les yeux sur cette fraude sociale. Alors que, bon, on le sait tous, hein, le RSA est énormément fraudé, avec une estimation de 1 milliard d'euros par an de fraude, 10% des versements qui seraient suspects, il y a des cartes vitales surnuméraires, il y a beaucoup d'emplois qui sont non déclarés, et puis on peut estimer qu'il y a de l'économie grise en France pour à peu près l'équivalent de 11% de notre richesse nationale.
Oui, mais Agnès Verdier-Molinier, une question, comment peuvent-ils compter récupérer tous ces milliards, que ce soit d'ailleurs de la fraude sociale comme de la fraude fiscale ? Quelles sont leurs recettes ?
Bah, c'est là que c'est beaucoup plus flou, en fait, hein. Ouais. C'est-à-dire que on voit bien ce qu'ils veulent récupérer, on voit pas trop bien comment ils vont y arriver, parce que contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, aucun candidat ne propose de rendre imposables les aides sociales versées en complément de revenus. Ils proposent pas non plus de plafonner ces aides ou de fusionner la carte vitale avec la carte d'identité et les rendre biométriques comme ça se passe en Belgique. Et ça fonctionne très bien et on n'a plus de problème justement de contrôle d'identité de ceux qui sont bénéficiaires. Donc on comprend qu'il y a des objectifs hyper ambitieux, mais qu'il n'y a pas tellement le chemin pour y aller, l'explication de texte sur comment ils vont récupérer tous ces milliards.
Oui, c'est ça. Quels sont les problèmes alors, justement ?
Bah, le problème, c'est d'imaginer qu'on va récupérer énormément 10, 15 milliards sur la fraude fiscale et sociale et que ça permette d'annoncer en face des dépenses équivalentes et qu'en fait, en réalité, ce soit pas du tout cohérent par rapport à ce qui est proposé par les candidats. Donc ces montants-là, on peut y arriver que si on fait une énorme réforme en profondeur de notre modèle social, par exemple en faisant comme dans les pays du nord de l'Europe, en supprimant petit à petit les minima sociaux ou les indemnités chômage quand ceux qui en bénéficient refusent de retourner vers l'emploi déclaré. Donc, 1, 2, 3 refus d'emploi, eh bien, ça devrait donner des suppressions d'aides et de minima sociaux. Mais ça, c'est pas du tout proposé non plus par les candidats. Et donc, on peut craindre une chose, c'est que s'il n'y a pas de nouvelles mesures qui sont dévoilées dans les prochaines semaines, tous ces milliards annoncés de récupération sur la fraude soient un peu illusoires.
Ah oui. Merci beaucoup, Agnès Verdier-Molinier. C'est passionnant, c'est intéressant.
Merci
et c'est un sujet, évidemment fondamental aussi de cette présidentielle qui, vous l'avez dit, est quand même un peu abordée alors que souvent on le remet en fait à chaque fois. C'est un marronnier, comme vous l'avez dit. Merci Agnès Verdier-Molinier. Chaque semaine donc avec votre
Merci
comparateur, hein, directrice de l'IFRAP et votre dernier livre, je le rappelle, Le vrai état de la France, s'est publié aux éditions de l'Observatoire.
Et c'est l'heure des grands débats. Françoise Degout, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300, des sujets certainement qui vous intéressent et vous voulez débattre. Ouais. Eh bien, on vous attend au standard.
Qu'est-ce qui vous interpelle ce matin dans l'actualité? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer au Rassemblement National? Suspicion d'espionnage. Donc, Nicolas
Bayle. Oui, c'est
quand même. Suspicion
d'espionnage. C'est les Atrides, hein.
Oui, oui. alors, il y a ça, il y a les nominations au Conseil constitutionnel. Je pense qu'on prendra un petit peu de temps tout à l'heure pour en parler, le pass vaccinal. Juste d'un mot, quand même, sur ce feuilleton au Rassemblement National, c'est quand même assez étonnant. Alors, suspension, ils ne l'ont pas exclu, hein, Nicolas Bay. Elisabeth Lévy, Françoise Degout.
Bon anniversaire d'abord, Elisabeth Lévy.
Ah, oh, mais merci, oh, bah, oui, merci. Oh, bah, mais vous savez que je...
Ah, d'accord.
Vous savez que...
Ah, c'est pour la réouverture des discothèques,
c'est ça? C'est bien sûr, c'est ça, parce que ce soir,
c'est le contraire. C'est le contraire. On a ouvert les discothèques pour moi.
Bien sûr.
Évidemment, je préférerais qu'on m'organise. Oui. Je préférerais qu'on m'organise une pêche miraculeuse, vous voyez, mais bon. Ouais. Comme quand j'étais petite, c'est ça que je voulais dire. Mais, sérieusement,
cette histoire en fait d'espionnage au sein du Rassemblement national.
Je crois quand même qu'il y a. Alors, évidemment, je ne vois pas ça de l'intérieur, mais d'après ce qu'on me dit toujours sur le Rassemblement national, il y a une façon de gérer le parti qui est déjà d'entrer assez caporaliste. Quelqu'un m'a dit, il y a tout le temps quelqu'un qui tépit, si vous voulez, dans ce parti. Il y a tout le temps quelqu'un qui va rapporter à la maîtresse si t'as dit quelque chose de pas gentil. Alors, je sais pas si c'est, je crois que c'est peut-être un peu pareil dans tous les partis, mais là, je crois quand même qu'il y a une façon de gérer le parti qui est pas très agréable. Et puis, si vous voulez, en plus, là, maintenant, il y a cette espèce, comme vous le savez, les guerres fratricides, c'est beaucoup plus violent. Les guerres civiles sont beaucoup plus violentes que les autres. Ouais. Et donc, cette guerre avec la Zemmourie prend un tour, je crois, alors qu'ils sont à touche-touche dans les sondages, va prendre un tour assez sanglant. Je ne sais pas ce qu'en pense Françoise, elle n'avait pas l'air d'accord.
Si, je suis absolument d'accord, mais surtout pour ajouter que aller au bout de votre phrase, ma chère Elisabeth, c'est-à-dire que c'est dans tous les partis de la même manière. Vous savez, vous êtes fliqué au Parti Socialiste.
À
rue de Solferino, c'est rempli.
Bon,
vous savez, il n'y avait plus personne parce qu'il est vendu.
Il y a des agents de change maintenant.
Vous savez, c'est comme au Maroc, il y a deux personnes qui parlent, il y a six oreilles qui écoutent et il y a 18 langues qui répètent. Hein. Ouais. Ça, c'est la joie de la politique.
C'est assez particulier.
Très joli, très joli.
Non, c'est ce que disaient les opposants marocains au régime d'Assad. Ils disaient ça.
Non, voilà. Mais pour rester quand même sur le Rassemblement national, et comme le disait Elisabeth, c'est quand même assez particulier le fonctionnement.
Parce qu'on
se souvient avec Florian Philippot, qui a été exclu.
On se souvient surtout de Jean-Marie Le Pen avec Bruno Maigret.
C'est
une grande, grande tradition. Mais je crois quand même que par rapport à ça, je ne sais pas mon genre, mais je vais quand même donner raison à Marine Le Pen. Hier, sa déclaration sur arrêter d'aller au rythme des limaces, ceux qui doivent partir, partez. Ouais. Je trouve que c'est pas mal, parce que d'abord, elle se victimise pas, et puis surtout qu'il y a aussi, à un moment donné, je veux pas faire mon perdreau de l'année, ma perdrie de l'année, mais la réalité, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est moral, et c'est pareil à gauche, à droite, quand vous avez été élu sous les couleurs d'un parti, que vous devez tout à quelqu'un, et que vous préparez en secret votre départ, c'est tellement secret d'ailleurs que tout le monde est au courant, et que vous continuez quand même à siéger dans les instances. Je pense qu'à un moment donné, il faut être absolument clair avec soi-même et puis clair avec la personne qui vous a fait. Oui. Voilà, tout simplement.
Vous savez, il y a quand même, pardon, mais ça s'est déjà aussi passé, il faut savoir aussi qu'il y a l'entremêlement avec les affaires de famille et qu'à l'intérieur de la famille, c'est pour ça que je pensais aux Atrides, c'est encore plus vrai.
C'est
que il y a les histoires de famille qui s'y mêlent. Et rappelez-vous la scission avec Bruno Maigret.
C'était la sœur de Marine Le Pen qui était partie avec
Bruno. La sœur de Marine Le Pen a quitté Montretout dans la foulée, si vous voulez.
Bien sûr.
C'est donc tout est mêlé et je crois que ça accroît la violence.
Oui, et comme le dit Mamicha sur les réseaux sociaux, parce qu'on pose cette question, est-ce que ça va se poursuivre cette guerre des clans, est-ce qu'elle va se poursuivre avec cette suspicion? Il dit le RN souffre de la candidature de Zemmour et donc ces gesticulations vont se poursuivre.
Sauf que, je vous le dis juste, parce que vous le savez très bien, notre ruling Sud Radio Fiducial LCI, eh bien, dans ce ruling, il n'y a aucune ambiguïté possible. J'en discutais hier encore avec Jérôme Fourquet. Sur un second tour où Marine Le Pen serait au second tour face à Emmanuel Macron, c'est un report de 100% des électeurs d'Éric Zemmour sur Marine Le Pen. C'est pas 80, et dans l'autre sens, idem. Ouais. Ça veut dire que cette famille-là, nationaliste, elle est coupée quasiment artificiellement, d'une certaine manière.
Ouais, parce que cela dit... pardon. Juste, Françoise, d'abord, il y a deux stratégies. Vous avez raison de dire ça. Il y a deux stratégies. Et puis, moi, j'ai l'impression, là, j'aimerais avoir ton avis, ma chère. Il me semble, je n'ai jamais vu une élection, me semble-t-il, où il y a autant de transfuges.
Oui.
Je sais pas.
J'ai jamais vu. J'ai l'impression que c'est le bal des transfuges.
Je suis pas sûr, parce que souvenez-vous quand même.
Attendez, le temps du journal, vous allez réfléchir. On va essayer de se remémorer tout ça, parce qu'on arrive effectivement. Et regardez, il est déjà
8h57. Le journal et vos appels.
Ça a transfugé pour Ségolène, avec les Gras et avec Éric Besson.
On va voir tout ça dans un instant. Et on va parler aussi des chasseurs. Des chasseurs et du monde rural avec les candidats à la présidentielle. C'est Éric Revel qui sera avec nous dans un instant, dans Revel en campagne. Et puis restez vraiment avec nous.
Sachant chien est un bon chasseur.
Philippe Val sera avec nous. Philippe Val pour un livre absolument merveilleux. Oui. Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Beaucoup de réflexions. Il sera avec nous tout à l'heure à 9h30. Et pour ceux qui sont du côté d'Arles, dans la région là-bas, ne ratez pas André Bercoff,
qui sera à l'hôtel Voltaire.
Il est à l'hôtel Voltaire et il vous attend. Hôtel Voltaire, André Bercoff, ce midi avec beaucoup d'invités, des harkis, des éleveurs en fait de taureaux, des pompiers. Enfin voilà, on va parler.
C'est le moment d'y aller.
Oui, présidentiel là-bas. Allez,
restez
à tout de suite.
Restez avec nous, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04, tout de suite, Revel en campagne.
Sud Radio, présidentielle 2022.
Et il est là. Et bonjour Éric Revel.
Bonjour Cécile, bonjour mesdames, bonjour monsieur Roger.
Bonjour monsieur
Revel. Et bonjour tout le monde.
Oui, le monde agricole, chasseurs et pêcheurs auditionnaient hier Éric Zemmour, Valérie Pécresse. C'est le mouvement de la ruralité qui organisait ces débats. Que représente ce mouvement ?
Oui, alors, à la pêche ou à la chasse aux voix, puisque deux candidats, Zemmour, vous l'avez dit, et Pécresse, planchaient, c'était leur grand oral, devant le mouvement de la ruralité. Alors, c'est un mouvement puissant, électoralement. Alors, ce mouvement, vous en souvenez peut-être, c'est l'ancien parti politique Chasse, Pêche, Nature et Tradition.
Exact.
Ce parti avait présenté même des candidats à la présidentielle de 2002 et de 2007, c'était Jean Saint-Josse. Et Frédéric Nihous, on se souvient encore de leur nom. Bon, cette fois, le mouvement de la ruralité va défendre ses intérêts au travers de candidats à l'élection d'avril prochain. Donc, ils ont commencé hier par auditionner Zemmour et Pécresse.
Oui, et qu'est-ce qu'a proposé, alors par exemple, Éric Zemmour, concret aux chasseurs et pêcheurs ?
Alors, Zemmour, il veut un grand ministère de l'agriculture, de la protection de l'environnement et de la ruralité. Mais Zemmour ne veut plus entendre parler de ministère de l'écologie. C'est trop connoté à gauche pour lui. Il leur a même dit aux chasseurs et aux pêcheurs, les vrais écologistes, c'est vous. L'auditoire était plutôt conquis en direction de Zemmour. Les chasseurs et les pêcheurs sont plutôt de droite. Et puis, il a remis sur la table, vous savez, cette fameuse prime de 10 000 euros pour chaque nouvelle naissance en zone rurale.
Oui. Et Valérie Pécresse, alors, ses propositions au monde des chasseurs et des pêcheurs ?
Alors, Valérie Pécresse, d'abord, elle essaie de montrer qu'elle peut être éloquente. Il n'y a pas que des meetings, il y a aussi de la punchline. Alors, elle a sorti une formule qui a dû faire mouche, si j'ose dire, pour les pêcheurs. Oui. Elle a dit
«
Il faut arrêter de faire la chasse aux chasseurs ». Bon, vous voyez, ça parle aux chasseurs. Mmh. Alors, concrètement, elle ne veut pas imposer d'éoliennes, comme Éric Zemmour, sans concertation locale. Elle promet, d'ailleurs, une grande loi contre la désertification des campagnes. Elle promet que la loi de fer à côté, ce sera de la petite bière. Vous voyez, donc elle veut frapper fort. Valérie Pécresse défend aussi, ça c'est important, le bien-être animal. Elle l'a d'ailleurs fait rajouter dans la charte des 30 propositions du mouvement de la ruralité, parce que sinon, visiblement, elle ne signait pas le papier des propositions. C'est ce mouvement, je vous le rappelle, l'ancien Chasse, Pêche et Tradition, qui organisait ces grands jours.
Oui, le vote de cette partie du monde agricole est assez important dans notre pays, mais ça représente combien de personnes, à peu près, en France ?
Alors, d'abord, Patrick, Zemmour et Pécresse, on l'a dit avec ce rolling fiducial Sud Radio LCI, ils sont très proches, 14,5 maintenant pour Zemmour, 14 pour Valérie Pécresse. Eh ben, rien n'est à négliger. Les chasseurs, les pêcheurs, c'est un peu plus d'un million de personnes dans notre pays. D'ailleurs, la France compte en Europe le plus grand nombre de chasseurs et de pêcheurs devant l'Espagne et l'Italie. Cet électorat chasseur-pêcheur en France, plutôt de droite évidemment, semble emballé pour le vote Zemmour et Pécresse, et aussi Fabien Roussel, on dit des témoins, le candidat communiste, ça leur parle, sans oublier, certains le mentionnaient, le candidat berger, Jean Lassalle, mais peu pour Marine Le Pen, et évidemment encore moins pour Yannick Jadot. À la chasse aux voix, à la pêche au vote, les candidats à la présidentielle 2022 ne peuvent rien négliger. Le second tour, vous le savez Patrick et Cécile, se jouera dans un petit mouchoir de poche.
Vous voulez réagir 0826 300 300.
Oui, et j'ajoute que demain matin nous recevrons le patron des chasseurs qui sera avec nous pour parler justement et peut-être se prononcer pour l'un ou l'autre des candidats. Françoise Degois, oui.
Je voulais rajouter quelque chose à l'excellente chronique d'Éric Revel. C'est très bien de faire un focus sur cet électorat. Bien sûr, ça n'est que 1 million de personnes, mais en réalité, c'est en termes d'influence que c'est important. C'est-à-dire que dans une famille où vous avez un chasseur, ce pas dire que tout le monde chasse dans la famille, mais en réalité, le fait que ce chasseur ou cette chasseuse, parce qu'il y a des chasseurs
pêche
aussi,
en plus aussi,
pêche, etc., donne un point de vue sur un candidat, ça influence l'ensemble de la famille. Donc c'est en termes, c'est encore plus puissant qu'en termes numéraires, c'est vraiment en termes d'influence.
Et d'un mot, Françoise, est-ce que la gauche peut réussir à leur parler? Prenons Yannick Jadot, par exemple, Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon.
C'est très compliqué, je pense que les ponts se sont de plus en plus coupés avec la gauche, parce qu'effectivement, il y a des prises de position caricaturale chez un certain nombre d'écologistes. En réalité, moi, je ne condamne pas Europe Écologie Les Verts, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un sentiment d'agression. Et puis, vous savez, j'entends toujours les vieilles antiennes supprimer l'écologie et mettre l'écologie dans l'agriculture. Ça, c'est une hérésie, mais bon, ça fait plaisir électoralement. On sait bien que Éric Zemmour, on comprend bien pourquoi il le fait. Mais c'est pas...
C'est
oxymorique. Non, mais c'est oxymorique. Agriculture, écologie... je termine, pardon, Elisabeth. Le désamour entre la gauche et l'agriculture, vraiment, souvenez-vous Jospin, il arrive au salon de l'agriculture, c'est le seul qui prend des œufs, vous souvenez, à la fin de ça. Ouais. Et puis, vous souvenez
depuis,
de Dominique...
Il y a eu Macron, quand même.
Non, mais vous souvenez de Dominique Voynet, qui est obligé d'être évacué du salon de l'agriculture. Il y a un désamour qui s'est installé. Il y avait la Confédération, parce que la FNSEA est vraiment à droite tout aussi, le syndicat principal, mais il y avait la Confédération paysanne, mais ça ne fonctionne pas vraiment.
Alors que je pense que
la gauche a des choses à dire.
C'est vrai. Je voudrais quand même qu'on revienne aussi, merci, puis on en reparlera aussi probablement demain matin.
J'aurais bien voulu dire un mot quand même pour répondre à Françoise, non ?
Un petit mot, parce que je sais que sinon c'est plusieurs phrases, oui.
Non mais très vite, si vous voulez, le problème c'est que les écologistes n'aiment pas la nature en fait, tout simplement. Je m'arrête là.
Bon,
on avait dit un mot, j'ai dit un mot.
On peut évidemment regarder de très près la souffrance animale. On peut considérer que la chasse c'est quelque chose qu'il faudrait encadrer. Mais quand vous entendez Yannick Jadot expliquer, ou même Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, peut-être que Françoise va le confirmer, expliquer qu'il faut interdire la chasse. Mais attendez, mais quand vous voyez aujourd'hui la question du gros gibier, les sangliers, les chevreuils, vous savez qu'on ne sait plus quoi en faire en France.
Je suis d'accord avec vous.
Les sangliers, pardonnez-moi, mais si vous ne les chassez pas, mais ils détruisent tout en réalité. Donc
je vais en adopter un.
Donc si vous voulez,
je vais adopter un sanglier.
Ça c'est concret.
Rappeler que la nature, c'est dans les sujets de Philippe Val, qui sera avec nous à 9h30 pour son dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu.
Sera dans un quart d'heure maintenant, un bon quart d'heure. À propos de sangliers, ce qui est assez incroyable, effectivement, comme il n'y a pas de battu, par exemple, au Mureau, à Mantes-la-Jolie, en ce moment, vous savez qu'il y a des sangliers qui viennent juste en bas, en fait, des tours.
Mais bien sûr,
vous savez que j'en ai trouvé au pied de pas loin de chez moi à Rome, dans le quartier Garbatella, qui est plein centre. Mais vous avez des sangliers partout, c'est pas simplement français, c'est européen. Donc il faut chasser les sangliers.
Ce matin, je suis passé par les Champs-Élysées, j'ai croisé une horde de sangliers. Non, je
pense pas. Ah, blague.
Heureusement, on a Obélix.
Tout à Tis.
On a Obélix. Allez, dans un instant, on revient sur deux, trois grands sujets, en fait, de ce matin. Notamment, ces nominations au Conseil constitutionnel. Jacqueline Gourault, ou encore l'ancienne procureure de Rennes. Ça vous fait réagir. Et puis, ce qui se passe aussi au Rassemblement national. Je sais que ça appelle beaucoup au 0826-300-300. Allez,
à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h14, la suite des grands débats ce matin. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, Éric Revel, vos appels 0826-300-300. Et deux actualités ce matin,
oui,
Patrick.
Notamment, c'est vrai, si vous voulez réagir sur autre chose, et notamment le pass vaccinal, et puis maintenant on peut manger des sandwichs dans le train. C'est quand même assez exceptionnel. On peut prendre
un
café debout aussi, et puis on peut danser dans les discothèques. Vous avez vu, je plaisante, mais autour de ces allègements. Non, et puis il y a ces sujets beaucoup plus peut-être sérieux, quoique. C'est autour de ce qui se passe au Rassemblement National et puis le Conseil constitutionnel avec les nominations. On commence avec Hugues qui est au 0826 300 300.
Bonjour. Il s'appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Hugues.
Bonjour. Oui, Hugues. Bonjour. Je suis à Aix-en-Provence, effectivement. Voilà, je téléphone parce que moi, je vote Front National et Rassemblement National, c'est pareil, depuis 81.
Oui.
Et là, je suis passé à Reconquête, tout simplement. C'est pas des questions de je ne sais quoi. C'est simplement que Marine ne fait plus, ne donne plus les idées qu'on avait. Et du coup, tout le monde est changé. Moi, je vois autour de moi énormément de gens qui votaient Marine. Plus personne ne vote Marine.
Pourquoi alors? Parce que elle n'est plus en adéquation avec ce que vous pensez.
Elle n'est plus en adéquation avec tout ce que les gens pensent. Et moi, je tracte sur les marchés. J'ai tracté sur les marchés pour Marine et Jean-Marie Le Pen. J'ai tracté pour beaucoup de choses, beaucoup de gens. Pour la Manif pour tous, d'ailleurs, aussi. Et je tracte pour Zemmour. Et c'est impressionnant l'accueil qu'on a, la différence d'accueil qu'on a, qui est excellente.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a.
Ça, on le dit pas.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a. Non, mais si je comprends bien ce que vous dites, hein, Hugues, finalement, il y a de l'enthousiasme autour de la candidature d'Éric Zemmour et les gens ne s'en cachent pas, alors qu'ils s'en cachaient un petit peu plus autour de Marine Le Pen, quoi, aussi. En plus,
je
non.
Je ne suis pas sûr qu'ils s'en non cachent. Non, ils s'en cachent. Enfin, moi, je ne m'en cachais pas, mais je ne suis pas sûr qu'ils s'en cachent. Ce qu'il y a, c'est que Marine a voulu être dédiabolisée, elle a voulu rassembler au maximum, comme font le LR d'ailleurs, qui se casse la figure. Et à force de vouloir rassembler à tout bord, on rassemble plus. Ouais, ça fait l'effet inverse.
Ouais.
Simplement.
Oui. Hugues, question de Françoise de Goix.
J'ai une question parce que ce qu'on bonjour. Hugues, on voit bien que le bloc nationaliste identitaire il est coupé en deux parce que je vais vous poser la question à vous. Alors ça va pas valeur de sondage. Tous les sondeurs nous disent que dans un cas de Marine Le Pen au second tour, le report des voix sur Marine Le Pen de la part de l'électorat d'Éric Zemmour est de 100%. Est-ce que vous faites partie de ces 100% ou bien est-ce qu'il faut dire 99,999%?
Alors, en fait, on sait bien que les sondages racontent n'importe quoi, vous le savez aussi bien que moi.
Ce sont des photos. Alors, parfois elles sont floues, parfois elles sont bien.
Enfin, le président de la Sofresse, c'est le fils de Madame, si j'ose dire, Macron.
Non, c'est pas vrai du tout. Hein, vous savez que c'est une fake news, ça. C'est absolument faux. Enfin, c'est pas grave. Est-ce que vous voteriez?
Est-ce que vous voteriez tout sauf Macron, ça c'est clair, et je voterai Marine, oui.
D'accord.
Vous voterez Pécresse? Hugues, si jamais c'est Macron-Pécresse, vous voterez Pécresse?
Pécresse et Macron, c'est pareil.
S'il y avait, par exemple, un second tour, alors, abstention. Abstention.
Non, blanc, mais malheureusement, là aussi, les blancs ne sont pas pris en considération. Les hommes politiques ont peur.
Oui, c'est vrai.
Je partage ce que vous dites sur les blancs. Voilà,
S'il y avait 50% de blancs, peut-être que ça ferait réfléchir tous ces menteurs d'hommes politiques.
Oui. C'est vrai. Bon, après, ça ne changerait pas fondamentalement parce que, du coup, voilà. Vous n'allez pas élire quelqu'un avec un vote blanc. C'est un vote de sanction, comme un vote d'abstention, finalement.
Oui, mais si les gens votent pas plus blanc, c'est parce que le blanc n'est pas pris en considération. Et s'il y avait plus de 50% de blanc, il faudrait refaire l'élection.
Oui. Mais on va pas
à un moment donné.
Il faut choisir entre Hugues, cher Hugues, et c'est Elisabeth Lévy. Bonjour. Il me semble, malgré tout, là, on va pas être d'accord. Moi, j'ai jamais bien compris cette affaire de vouloir qu'on comptabilise les blancs. Donc, on les comptabilise, si vous voulez. Et c'est comme ça, la vie, vous choisissez entre ce que vous avez dans toute la vie. C'est-à-dire, vous pouvez toujours fantasmer un leader génial, celui qui correspond exactement à ce que vous voulez. Mais à un moment, faut choisir entre ce qu'on a.
Je suis d'accord. Mais entre Pécresse et Macron, comme c'est la même chose et que je les déteste, on ne peut pas voter pour ces gens-là. C'est des menteurs. Il n'arrête pas de mentir. Macron, dès qu'il ouvre la bouche, il ment. Il raconte n'importe quoi. Bon. Enfin, faut arrêter. Bon. Quoi.
Bah non, mais des mensonges, il y en a un peu partout hein, aussi, dans tous les partis. Hein. Regardez ce qui se passe.
Sur radio.
Oui, oui. Regardez, non mais regardez ce qui se passe au Rassemblement National, où donc mon cher Hugues, avec ces affaires d'espionnage, les uns les autres qui se renvoient la balle, c'est pas toujours mieux hein, en fait, hein, un peu partout. Hein. Je veux pas prendre parti, mais je dis juste, je voudrais qu'on réagisse. Il nous reste quelques minutes avant d'accueillir Philippe Val hein, dans La Vérité en Face là, tout à l'heure. Sur ces nominations quand même au Conseil
excellente
constitutionnel.
Excellente chronique d'Elisabeth Lévy ce matin.
Alors, c'est
merci,
vrai.
Merci,
bon, donc il y a la proposition de Véronique Malbec, hein, qui était la procureure de Bretagne, à Rennes. Il y a la ministre Jacqueline Gourault. Et certains disent d'ailleurs qu'à propos des politiques au Conseil constitutionnel, il va y avoir 5 politiques sur 9 en fait aujourd'hui et que c'est un peu trop. Françoise Degoy, Éric Revel et...
Moi je vais juste dire une chose, c'est que, bon, on pourrait évidemment regretter qu'il n'y ait pas plus de juristes au Conseil constitutionnel que de politiques, mais ça va plus loin, la critique. Et le sentiment, quand même, qu'il se passe quelque chose, c'est que les politiques en question, ils représentent tous Emmanuel Macron. Ils sont tous plus ou moins nommés directement ou indirectement par Emmanuel Macron.
Ah bah alors les
Gérard
précédents.
Larcher.
Oui,
Gérard
ok,
Larcher.
Oui, oui, bon, très bien. Bah sauf oui. Le candidat de Gérard Larcher. Pour oui. Le reste, on a l'impression quand même.
Qui a nommé un juriste.
On parlait de sentiment d'insécurité. Là, on a un sentiment de verrouillage du Conseil constitutionnel.
Ouais.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'imagine pourquoi. Mais peut-être que Emmanuel Macron est en train d'assurer
son deuxième quinquennat.
Son deuxième quinquennat. Ou s'il était battu, je ne sais pas. Des affaires qui pourraient ressurgir. Quand vous avez un Conseil constitutionnel qui apparemment est à ce point-là quand même aux ordres et verrouillé, on peut se poser quand même la question.
Ouais.
Enfin, je crois qu'Elisabeth disait ce matin...
Mais
Elisabeth disait ce matin, à juste raison à mon avis, que si ça se passait en Hongrie, dans un autre pays, on dirait mais quelle dictature, etc. Nous, ça passe crème, comme disent les jeunes, et on s'interroge jamais. Et pourtant, la France donne des leçons de démocratie absolument à la terre entière. Mmh. On est la plus belle démocratie soi-disant, mais quand vous regardez dans le détail, il y a quand même des trucs dont on doit rougir.
Alors le président...
Et c'est d'autant plus embêtant qu'on a quand même aussi, excusez-moi, un petit soupçon parfois sur la justice, c'est-à-dire cette affaire de procureur, même s'il y a zéro preuve, c'est quand même embêtant. Le classement sans suite a été quand même très contesté, parce que Richard Ferrand avait reconnu les faits, hein, et que ces faits sont quand même pas très glorieux. Donc, la justice plus le Conseil constitutionnel, effectivement, c'est pas... Même s'il y a rien, en réalité, le fait qu'il y ait un soupçon sur le Conseil constitutionnel...
C'est une maladresse au minimum incroyable.
Est vraiment
c'est une faute politique. C'est une faute politique.
Mais moi, je dirais, réécouter l'excellent édito d'Elisabeth ce matin, parce qu'il y avait tout dedans, notamment la réaction outragée de Vierge outragée de Richard... de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Plus largement, je dirais que je suis sidéré par ce sentiment d'impunité totale des gens qui nous gouvernent. J'ai le sentiment que tout ce petit cercle Emmanuel Macron, c'est-à-dire vraiment Emmanuel Macron, le gouvernement et les gens qui le soutiennent, c'est-à-dire en gros la France élitaire, quoi, 24%, ça bouge pas, ça baisse pas, ça monte pas. J'ai le sentiment qu'ils peuvent tous permettre et il ne se passe rien. Ce qui me tue, c'est même pas qu'ils puissent tous permettre, c'est l'aboulie vraiment de ce pays. Les Français ne réagissent pas. Mais
attendez,
ils réagissent pas.
La justice, pourtant, regardez, quand on regarde, c'est ce que l'on disait il y a quelques années, et pourtant, quand on regarde l'entourage de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant est allé en prison, Balkany est allé en prison, même si, bon, ça a été un petit peu difficile, Nicolas Sarkozy est poursuivi lui-même et pourrait très bien se retrouver en prison.
Un mot là-dessus, Françoise.
Oui.
C'est que, justement, de mauvaises langues, alors là, c'est de la spéculation, bien sûr, disent que si Nicolas Sarkozy n'a pas pris position, c'est aussi...
Pour se protéger,
si vous voulez,
bien sûr.
Bah oui, parce que
Macron le protège.
Et moi, je dois vous dire que la question de la justice me paraît, elle, encore plus grave. Je vous rappelle tout de même que l'affaire Fillon, par exemple, est partie en vrille très vite, alors que même ensuite, il y a eu cette affaire, alors c'est peut-être pas gravissime, de Los Angeles, vous savez, où Emmanuel Macron avait fait une sorte de meeting sous couvert d'une convention technologique, je sais plus quoi, il avait organisé un truc, bon, il y avait eu une polémique, mais jamais la moindre ouverture d'une enquête. Donc ça me paraît, effectivement, on a l'impression d'une justice qui est Beaucoup plus sévère avec certains qu'avec d'autres, et ça, c'est vraiment fâcheux.
Ouais. Oui, moi, mon sentiment, vous avez raison, Elisabeth, sur la justice. Vous avez surtout, moi, je pense que sur le Conseil constitutionnel, c'est tout aussi grave, parce que on attendait aussi le Conseil constitutionnel sur le pass vaccinal, sur la proportionnalité, etc. Il n'a jamais répondu présent, bien sûr. Voilà, après, vous avez, voilà, il y a quelques
recommandations, mais bon.
Mais il y a quelque chose qui me paraît, comment dirais-je, complètement délirant. Et ce qui me paraît le plus délirant, c'est que l'opinion publique française ne bouge pas et qu'on s'apprête.
Comment voulez-vous bouger
Mais il faut bouger quand vous avez un président qui gouverne pendant 52 semaines ou 60 semaines en conseil de défense avec le secret défense. Ça n'est pas normal. On a accepté et on continue à accepter. Et l'élection présidentielle telle qu'elle se dessine aujourd'hui, si on votait demain, on réaccepterait, on réenclencherait pour 5 ans cette chose-là qui, normalement, nous, les Gaulois réfractaires, de gauche comme de droite, devraient nous faire bondir. Sauf qu'on ne bondit plus, la gauche ne bondit plus, il n'y a que Mélenchon qui bondit et il est traité d'extrême gauche. Personne ne bondit, ça passe tranquillement. Mais c'est ça qui ne va pas. Ouais. Il faut que la France se réveille, c'est pas possible.
Une Françoise bondissante.
Oui, Françoise bondissante.
Juste, moi je vais vous dire, je suis assez en colère parce que ces nominations au Conseil constitutionnel jettent un peu plus le trouble sur la crédibilité d'un des derniers piliers. Alors les Français connaissent pas toujours le rôle du Conseil constitutionnel, mais c'est l'un des derniers trucs encore solides. Voilà, la justice, on s'interroge. Bon, la politique, on y croit ou on n'y croit plus. Et le Conseil constitutionnel, c'était une sorte, jusqu'à présent, sans fausse naïveté, d'îlot de crédibilité. Avec ce genre de nomination, qu'elle soit que l'affaire soit vraie ou pas vraie, mais en fait, on jette un peu plus le trouble sur le Conseil constitutionnel. On sape un peu plus l'un des derniers piliers de crédibilité républicaine autour de l'indépendance par rapport au pouvoir politique. Et ça, c'est catastrophique dans le contexte dans lequel on est.
Et en plus, le Conseil constitutionnel vérifie la régularité des élections et les comptes de campagne.
On rappelle que le rôle du Conseil constitutionnel, c'est évidemment de vérifier la loi, qu'il y ait un respect. Oui, voilà, c'est ça, qu'il y ait un respect des droits et des libertés. Le président du Conseil constitutionnel, il avait été nommé avant quand même.
Vous savez, il est loin le temps où, par exemple, on nommait quelqu'un qui faisait l'unanimité, je vais dire son nom, c'est bien sûr Pierre Mazeaud, par exemple. Mazeaud était adoré sur tous les bancs de l'Assemblée nationale parce que c'était des grands juristes, des gens, un grand sens de l'État. Là, il y a un souci.
Je propose Patrick Roger. Allez, dans un instant, la suite d'un autre débat à la France.
Tous en boîte.
Oui. Et pour l'anniversaire d'Elisabeth Lévy, encore bon anniversaire. Dans un instant, la vérité en face.
Merci Cécile.
On reviendra sur l'idéologie sous forme de bonne conscience, ce qui s'invite dans tous les débats présidentiels avec Philippe Val, qui sera avec nous, dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu aux éditions de l'Observatoire, et il va répondre à pas mal des questions du jour. Restez là.